Les missions de la Ligue de protection des oiseaux sont de proposer des sorties naturalistes afin de découvrir et apprendre à identifier les oiseaux de notre région en fonction de leurs propres critères, des saisons et des biotopes. Le public peut participer activement au recensement et comptage des oiseaux organisés par la LPO et prospecter particulièrement certaines espèces, hirondelles, circaètes, grand-ducs, faucons pèlerins, etc. Les domaines d'études s'étendent à la biodiversité et concernent également les mammifères comme le castor, les amphibiens, les insectes. La zone humide des Piles est un site naturalisé par Escota dans le cadre des mesures compensatoires suite à la construction de l'autoroute A51. Le lieu se trouve près du péage de la Solse entre la RD 1085 et l'autoroute. De nombreuses espèces floristiques et faunistiques ont recolonisé le site. Son intérêt majeur pour le public, notamment les écoles, est l'aménagement d'une mare pédagogique. C'est pourquoi il a été baptisé le jardin aux libellules. Le parcours est balisé et agrémenté de nombreux panneaux explicatifs. Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, la LPO du Pays Gapençais organise une découverte du site des Piles à la Solse pour le grand public le dimanche 7 février à partir de 10h. Vincent Vacher a rencontré Éliane Duplan pour la LPO qui explique le déroulé de cette matinée, mais avant cela, elle donne quelques explications de mots scientifiques.
Au sein de la LPO, il y a des ornithologues très nombreux, mais il y a aussi des mammalogues, des entomologues, des herpétologues, etc. Enfin, il y a vraiment toute la faune est représentée et étudiée.
Ah, vous m'intéressez, peut-être expliquer ce qu'est ces termes. Herpétologue, c'est ça par exemple? Est-ce qu'on a une définition un peu plus vulgarisée de ce qu'est cette spécialité?
L'herpétologie, c'est la science, c'est le groupe qui s'occupe des serpents et des amphibiens, surtout des serpents. Donc un herpétologue, c'est un scientifique qui s'occupe des serpents, qui étudie les serpents. L'entomologiste ou entomologue, c'est celui qui s'occupe des insectes. Le mammalogue ou mammalogiste, c'est celui qui s'occupe des mammifères. On a aussi, par exemple, au sein des insectes, des gens spécialisés, comme ceux qui s'occupent des libellules. Les libellules sont des odonates. C'est un groupe qu'on va particulièrement étudier sur le site des Piles.
Voilà de nouveaux mots peut-être, chères auditrices, auditeurs, que vous apprenez au cours des 50 dernières années. Voici ce constat, plus de la moitié des zones humides, c'est-à-dire les marais, les tourbières, ont disparu, notamment suite au drainage, à l'irrigation ainsi qu'à la pollution et bien entendu à ce fameux changement climatique. Et là, on va s'intéresser à ce site des Piles. Où est-il situé exactement pour ceux qui ne connaissent pas?
Tout le monde connaît l'autoroute et tout le monde sait où s'arrête l'autoroute à la Solse. Quand on quitte cette autoroute, quand on est sur le rond-point juste après le péage, eh bien, on est à proximité immédiate du site des Piles. À notre gauche, on a tout de suite le site des Piles.
Alors ce site a été réaménagé, réintroduit au niveau de la faune. Comment ça s'est passé? Je suppose que ça a été pas mal d'années pour situer tout ça et pour agrémenter afin que la nature puisse reprendre un peu ses droits.
Alors c'est un site qui a été détruit par la construction de l'autoroute, puisqu'il bordait la Durance et il débordait largement puisqu'il allait jusqu'à la Solse. Et il a été complètement démoli et il a fallu arracher les plantations puisque c'était une zone humide qui avait été quand même remise en plantation, donc déjà un peu asséchée. Pour l'assécher, il avait été créé des petits canaux d'irrigation. Tout ça a été complètement terrassé et Escota s'était engagé en mesure compensatoire à renaturaliser la zone après la fin des travaux. Donc il n'est resté qu'une petite zone de 6 hectares, c'est pas énorme, on peut le voir, c'est très riche quand même au niveau de la nature. Il a été réintroduit uniquement les espèces végétales qui avaient été mises en culture au Conservatoire botanique de Charence. La faune, elle, s'est réadaptée à recoloniser la zone d'elle-même. On n'a rien réintroduit du tout, surtout sur une petite zone comme celle-là. Les animaux sont revenus d'eux-mêmes, soit avec leurs petites ailes, comme les insectes ou les oiseaux, soit avec leurs petites pattes, parce qu'il y a un passage sous l'autoroute qui leur permet de venir depuis le bord de la Durance.
C'est pourquoi vous avez baptisé ce jardin, le jardin aux libellules. C'est un jardin pédagogique, c'est ça? Comment ça se passe? Vous organisez des visites avec les tout-petits, par exemple, aussi, puis les familles?
Donc, on l'a appelé le jardin aux libellules parce que on s'est aperçu que ce sont les libellules qui ont le mieux colonisé, qui sont en plus grand nombre d'espèces sur le site. En 2000, le site a donc été remis en nature. 4 mares importantes ont été creusée et la végétation a repris possession de tout le site. Et puis en 2005, le site a commencé à prendre une allure vraiment naturelle. En 2010, on a fait un premier comptage de libellules, on avait 22 espèces. Cette année, nous avons refait un nouvel inventaire, enfin en 2015, et cet inventaire nous a permis de contacter 36 espèces. Ce qui montre vraiment une richesse incroyable de milieux, parce qu'en fait, les libellules ne vivent pas toutes sur le même milieu. Les zones humides ont des caractéristiques qui sont soit de l'eau courante, soit de l'eau profonde, de l'eau pas profonde, pas d'eau du tout, de l'eau qui ne court pas, etc. Et donc, chacun de ces petits milieux abrite des espèces différentes de libellules. Dans ce site, c'est une mosaïque de milieux. On a plein de petits milieux différents qui vont abriter toutes ces espèces de libellules. Des amphibiens, des papillons, d'autres insectes. Et puis on aura aussi les mammifères donc, qui sont venus, qui nichent, qui fréquentent vraiment ce site particulièrement depuis 2005-2010.
Et cette mosaïque, vous pourrez l'apprécier le dimanche 7 février. À quoi le public va-t-il s'attendre ?
Je vais accueillir les gens à l'entrée du site pour montrer que ce site est ouvert au public. Même s'il est privé, et il y a une barrière, donc on ne peut pas y rentrer en voiture, mais on peut se garer devant. Il y a des panneaux et il y a tout un parcours pédagogique avec des panneaux interactifs. Des panneaux d'explication sur les différents sites. Au fur et à mesure qu'on avance, on rencontre ces panneaux avec chaque fois des petits jeux, des petites plaquettes qu'il faut déplacer pour avoir des questions, des réponses aux questions, et qui nous conduisent à la mare pédagogique. Les trois autres mares ne sont pas ouvertes au public. Mais la mare pédagogique est vraiment faite pour accueillir des classes, des groupes, avec une plateforme, avec plusieurs jeux interactifs sur cette plateforme. Et donc, quand je reçois les élèves, eh bien, on étudie les animaux qui sont dans la mare, on écoute les oiseaux, on cherche les insectes, etc.
Quand vous parlez d'élèves, ce sont donc des groupes scolaires qui viennent effectuer ces visites, c'est-à-dire le public aussi peut venir avec les enfants. Et là, c'est le but aussi de cette journée du dimanche 7 février, on va pouvoir venir. Par contre, est-ce que le site est peut-être un peu petit pour s'organiser ? Comment on fait si on est trop nombreux ?
Pour l'instant, c'est jamais arrivé d'être trop nombreux parce que une classe qui peut compter 25 à 30 élèves est reçue sans problème. Après avoir présenté le site à l'entrée, on va le découvrir petit à petit en le parcourant, on en fera le tour et on ira à cette mare pédagogique pour voir comment à quoi elle ressemble. On n'y trouvera pas les insectes, on n'y trouvera pas les larves, on n'y verra même pas les amphibiens puisqu'ils sont enterrés, enfin ils sont en train d'hiberner. C'est pour ça que je ne prendrai que 2 heures en fait, je pense que ça suffira pour en faire le tour et découvrir la mosaïque de milieux. Voilà.
Très bien, sachant que ça débute à 10h, pardon, jusqu'à midi dans ces eaux-là. Hein.
Midi et demi.
On peut vous retrouver sur un site internet pour ceux à qui ça intéresse, pour se rendre compte un peu des activités que vous faites tout au long, et ils sont nombreux tout au long de l'année.
Alors le site internet de la LPOPACA n'est pas compliqué du tout, hein. Il faut mettre LPOPACA sur son moteur de recherche. Et puis dans ce site, on peut trouver les blogs des différents groupes locaux. Donc si vous cherchez blog Pays Gapençais, vous trouverez des activités, des comptes rendus de sorties ou d'animations qui ont eu lieu autour du Gap organisé par ce groupe Pays Gapençais, ainsi que l'agenda, nos activités jusqu'au mois de juin.
Merci Eliane Duplan de vous être arrêtée au micro de Fréquence Mistral. Agir pour la biodiversité, vous pouvez en être acteur et vous pourrez aller vous évader et vous informer le dimanche 7 février 2016 à 10h pile sur le site des piles à la Sols avec Eliane. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci Vincent et j'espère que tout le monde viendra, que vous viendrez nombreux.